Et j'aimerais parler ce matin de qui est le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? Dieu avait mis sur mon cœur ce message. Et regardons hier soir la moisson. Oh, je sais que le frère Bonquet était controversé, peut-être par des façons, des méthodes, etc. Mais toujours est-il qu'il y a des millions sur des millions de personnes qui aujourd'hui proclament que Jésus-Christ est leur Seigneur. La parole de Dieu a été annoncée. Moi, je n'avais pas de problème avec lui, mais je sais que quand il est venu ici, on a été à Montreuil, il a été dans une grande salle. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas voulu participer parce que peut-être qu'ils avaient peur de l'action du Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais nous avons intérêt à connaître le maître de la moisson. Et je vais demander à tous ceux qui sont dans les couloirs de venir et vraiment de ne pas trop bouger pendant ce message, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de mouvements parfois. Donc ceux qui sont dans le couloir, venez. Et alors, vous pouvez boire de l'eau à la fin du culte, vous pouvez, etc. Mais c'est important donc d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais dire quelque chose de particulier, mais je crois qu'il faut qu'on soit sensible à ce que Dieu veut nous dire. Matthieu chapitre 9 et verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9 et verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qui est le maître de la moisson? C'est Jésus? Non, c'est le Père. Qui est le vigneron? C'est le Père. Jésus est le vrai cep, nous sommes ses sarments, mais c'est le Père qui est le vigneron. Qui donc est le maître de la moisson? C'est Dieu le Père. Et il faut que Dieu le Père, en tant que maître de moisson, prenne la place qui lui revient. Car tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons sert à la moisson. Nos paroles servent à la moisson. Nos prières servent à la moisson. Il faut prier pour la moisson. Alors, cette moisson peut se décliner dans deux aspects différents. Il y a l'aspect des âmes. Il y a l'aspect des personnes qui arrivent à la fin de 24 heures selon les latitudes. Et à la fin de ces 24 heures selon les latitudes, parce qu'ils sont morts dans ces 24 heures, pour eux, la moisson est terminée. C'était des fruits qui étaient mûrs et qui devaient être cueillis. Vous savez, il y a des personnes qui tâtonnent, qui cherchent Dieu. Il y a des personnes qui veulent des réponses à leurs intrigues. Aujourd'hui, il y a 1,2% des musulmans sur la face de la terre. Ici en France, il y a beaucoup de Français qui se tournent vers l'islam. Ils sont en train de se poser des questions. Et tout d'un coup, ils tombent sur quelqu'un qui va les embobiner dans leur discours. Et c'est pour ça que quand on sort pour évangéliser, c'est sûr et certain qu'il faut que nous, on soit prêts avec la parole de Dieu. Moi, si je parle avec un musulman, avec un mormon, avec un témoin de Jéhovah, c'est moi qui ai les commandes. Ce n'est pas eux qui vont parler pendant des heures et argumenter et poser toutes les bonnes questions. Moi, j'ai les réponses avec la parole de Dieu. Dieu m'inspire par sa parole et je vais avoir donc l'occasion de parler. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, bon, parlez-moi de votre Dieu, je vous ai déjà dit, mais sans votre Bible, parce que vous saurez où chercher les adresses. D'accord, pas de problème. On va parler sans la Bible. Mais, si vous voulez que je vous parle de Dieu, vous allez vous exposer à ce que Dieu se révèle à vous. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Donc tu veux parler de Dieu, d'accord, sans la Bible, pas de problème. Je ne vais pas dire en Romains chapitre... Non, mais je vais citer des versets. Et je l'ai vu à maintes reprises dans mes années de ministère, des personnes qui tout d'un coup, « Ah, mais est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là? » Là, ça m'a touché. Mais ce n'est pas ma parole. Hein. C'est la parole vivante de Dieu. Et c'est pour ça que quand on témoigne à des bouddhistes, à des musulmans, à des mormons, à des témoins de Jéhovah, à des hindous, etc., quand on témoigne, donc, à qui on témoigne, il faut qu'on soit préparé avec la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on vous encourage à la mémorisation. C'est pour ça qu'on vous encourage à mémoriser. Ma sœur Ruthanne, donc, qui était ma professeure de l'évangélisation personnelle dans ma première année d'école biblique en 73, qui est née donc, depuis 73. Alors, combien de versets pensez-vous elle nous a encouragé à mémoriser en un an? Combien de versets en un an? Combien de versets? 500 versets. Et il fallait les versets par rapport aux Mormons, par rapport aux témoins de Jéhovah, par rapport à ci, par rapport à ça, Hare Krishna, par rapport aux bouddhistes, etc. Il fallait avoir des versets qui allaient répondre à leur intrigue. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que ça m'a été très utile au fil des années. Alors, si nous mettons le maître de la moisson à la place qui lui correspond, nous allons être à ses ordres. Nous allons être à son écoute. Moi, je veux, pas seulement parce que c'est l'année 2020, une nouvelle décennie, etc., mais je veux que chaque jour, il me trouve occupé par rapport à ce qui est cher à son cœur, la moisson. La moisson des âmes. Il y a un verset que je vous lirai tout à l'heure en Jérémie, où les gens se lamentent et ils disent, la moisson est passée, l'été est fini, et nous, on n'est pas sauvés. Apparemment, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu n'était pas préparé pour nos cœurs. Parce que les gens qui meurent sans Christ, il n'y a pas de détour. Ils meurent sans Christ. Et qu'est-ce qui leur attend? C'est l'enfer. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de l'enfer parce que, mais l'amour de Dieu a été manifesté en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et c'est pour cela que chaque jour et chaque instant, nous devons le faire entendre autour de nous. Jésus-Christ nous a montré son amour. Jésus-Christ nous a manifesté son amour. Car la personne qui meurt sans Christ, elle est perdue à jamais. Alors ces fruits qui sont prêts à être cueillis, qui c'est qui va les cueillir? La scientologie? Les hindous, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam? Qui c'est qui va cueillir ces fruits? Qui c'est qui va aller là, conduit par le Saint-Esprit, pour cueillir ces fruits qui vont tomber à la fin de la journée? Moi, j'aime bien les cerises. Je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un nous a invités donc, à cueillir des cerises. Et quand je suis arrivé, donc, l'arbre, les cerises pendaient, mais tout autour était tapissé de cerises. Alors j'ai commencé à ramasser les cerises qui étaient par terre. Il y avait des vers, il y avait des parties pourries. Je me disais, ah mais c'est dommage, ça a été gâté. Alors j'enlevais les vers, j'enlevais tout ça et je goûtais la partie de la cerise qui avait l'air d'être intéressante. C'était délicieux. Mais apparemment, c'était perdu. Il fallait cueillir ce qui était encore sur l'arbre, ce qui n'avait pas été mangé par les oiseaux, ce qui n'avait pas été donc endommagé. Qui c'est qui va cueillir le fruit? Chaque jour, la moisson passe. Allons sur le Dieppe, parfois je reviens vers 11h, minuit, et même pendant l'hiver, on est en train de voir des agriculteurs avec leurs machines, avec la lumière. Même pendant l'hiver, c'est très intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pendant l'hiver, mais ils sont toujours là. Ils sont préoccupés par rapport à la pluie, par rapport au soleil, par rapport à ci, par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une moisson. Ils veulent que ça rende, que leurs efforts donc soient couronnés, que leur labeur soit couronné. Priez pour les agriculteurs en France. Il y a beaucoup de suicides parmi les agriculteurs. Il y a beaucoup de personnes qui... Voilà, mais priez pour les agriculteurs. Donc j'ai entendu des personnes, des témoignages, c'est vraiment dur, c'est vraiment triste. Pourquoi? Parce qu'ils font tout pour avoir une moisson. Et tout d'un coup, il y a un vent fort et qui détruit je ne sais pas combien d'hectares de vignes. Et tout est par terre. Et leur récolte est complètement détruite et démolie. Et ils savent que cette année-là, il faut se serrer la ceinture. Parce que leur moisson a été ravagée. Donc, les âmes. En tant que moissonneur, Jean chapitre 4, verset 34. Jésus parle avec la femme samaritaine. Vous connaissez bien l'histoire. Et vers la fin du chapitre, les disciples arrivent, parce qu'ils étaient partis racheter des choses à manger. Et ils arrivent au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Pardon, c'est une question. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux, regardez, voyez les champs blanchissent, et le temps est arrivé, car la moisson est mûre. Fortifiez-vous, prenez courage, levez-vous, prêchez sa parole à toutes les nations que Jésus-Christ est vivant et la terre entière sera remplie de sa gloire. Elle sera couverte comme les eaux couvrent le fond des mers et la terre entière sera remplie de sa gloire. Elle sera couverte comme les eaux couvrent le fond des mers. Il leur dit, vous vous dites, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il ne faut pas bouger pour l'instant, il faut attendre ce que la moisson arrive. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Si on a un appel sur notre vie particulière, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, Dieu va nous faire rentrer dans le travail d'autrui. Pour être formé, pour être sensibilisé, pour comprendre, pour apprendre. Mais le jour viendra quand Dieu va te confier ton propre terrain. Le jour viendra quand Dieu va te confier ta parcelle. Et c'est là que tu vas dire, j'ai moissonné là où les autres ont travaillé, maintenant il faut que moi je sème pour qu'il y ait une moisson. S'il vous plaît, ne parlez pas entre vous, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, soyez très attentifs. C'est important, c'est important. Si chacun de nous, on comprend que nous sommes des moissonneurs et que Dieu nous demande de s'aimer. Ah, c'est pas facile de s'aimer. Hein. C'est pas facile de s'aimer. On ne sait pas où la semence va tomber. Est-ce que c'est à nous de savoir où la semence va tomber? Quand on voit la parabole en Luc chapitre 8, la parabole du semeur, je ne vais pas la lire, mais vous connaissez cette parabole. Et les différentes sortes de terres sur lesquelles la semence va tomber. Et elle va tomber donc sur un terrain épineux. Elle va tomber sur un terrain donc où il n'y a pas de... Il y a des rochers, il n'y a pas de la terre pour qu'il y ait de la racine. Mais à la fin, elle tombe sur un terrain qui représente un cœur honnête et sincère, qui veut écouter, qui veut obéir et qui va produire un fruit. Bien sûr, on ne sait pas où la semence va tomber, mais c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas facile de s'aimer. Le psaume 126 nous dit, et le verset On va le lire, on va lire tout le psaume. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, psaume 126, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie des cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ça, c'est le verset sur lequel mon appel en France a été basé. Quand j'ai rencontré un couple qui avait passé 15 ans à Paris, entre 58 et 73. Et la dame me dit, tu veux parler de la France? Surtout ne va pas en France. Hein. Les Français n'ont pas besoin de Dieu. Elle me lâche une phrase qui pourrait faire pleurer. Elle a dit, ils ne méritent pas l'évangile. Elle était amère. J'ai pensé à Jonas. Je n'irai pas à Ninive parce que pour moi, Ninive, qu'il brûle. Mais la Bible dit en Jonas chapitre 4, vers la fin du chapitre, que Dieu aimait même les animaux à Ninive. Il avait un plan et un projet. Il fallait que Jonas aille prêcher et qu'il se repente. Elle commence à me raconter son histoire. Elle me dit, mon mari et moi, on a passé 15 ans à Paris. On venait des assemblées de Dieu. On avait été envoyés par les assemblées de Dieu, mais arrivés en France, personne des assemblées de Dieu voulait de nous. Ah, mais vous pensez que vous allez faire ce que nous, on n'arrive pas à faire, mais pour qui vous prenez, vous? Et pendant 15 ans, ils ont sémé la parole, des centaines de milliers de tracts. Ils allaient devant la Sorbonne, devant la Gare du Nord, devant l'Opéra, avec leur guitare, avec leurs trois enfants. Et ils chantaient, et ils prêchaient, et ils faisaient tout. Ils faisaient tout. Le soir, ils revenaient à la maison en pleurs. Nos seigneurs, ils ne veulent pas de nous. Ils nous jettent les têtes à la figure, ils nous crachent dessus. Ils nous insultent, ils se moquent de nous. Mais ils passaient des nuits dans la prière, dans l'intercession, dans les pleurs, prions pour la France, prions pour Paris. Et le lendemain, ils sortaient à nouveau. Ils allaient frapper aux portes des églises. Texto. Ah, vous êtes Américains? Oh, mais vous n'allez pas rester, hein, vous n'allez pas durer ici. Hein. Vous allez vous décourager. Revenez dans 10 ans si vous êtes toujours là. Aucun encouragement. Aucun pasteur à l'époque. Les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde cède, tout le monde s'entraide, les églises sont ouvertes, etc. Mais à l'époque, 58-73, c'était autre chose. Et les portes des églises fermées. Moi-même, je suis arrivé il y a 38 ans, je suis allé dans une église. Il y a un ancien qui est venu vers moi et m'a dit, vous êtes missionnaire, n'est-ce pas? Oui. Ah, mais nous ne voulons pas que vous assistiez ici. Vous savez, les missionnaires, vous revenez, vous repartez, vous faites ci, vous faites ça, vous découragez, vous repartez. Et ils m'ont dit, carrément, n'assistez pas ici. Ah, mais moi, j'assistais à un culte. Hein. Je voulais voir qu'est-ce que c'était un culte français. Mais revenons à l'histoire avec ce couple. Elle dit, on pleure encore. Elle me dit, à la fin de 15 ans, on s'est posé des questions. Et on a dû comprendre et constater qu'on n'avait jamais vu une réponse positive à une prière, un chant, un traité. Et on est parti dans la défaite totale. Elle surtout ne va pas en France. Et là, Dieu m'a dit, tu iras. Parce qu'il y a une moisson qui arrive. Il y a une moisson qui arrive. Ils ont été fidèles, entre autres. Parmi tant d'autres, ils ont été fidèles, ils ont sémé. Il y a une moisson qui va arriver. Ils ont sémé dans les larmes. Ils ne verront pas le fruit. Car elle était amère. Son mari ne disait rien. Il y a des larmes qui coulaient. Il a dit, Seigneur, le Mexique m'attend. C'est le réveil au Mexique. Au Mexique, c'était une centaine de personnes qui se convertissaient tous les jours dans toutes nos églises. C'était comme ça. À chaque culte, et des fois, il y avait des cultes à 8h du matin à 9h du soir. Et à chaque culte, il y avait une centaine de personnes qui s'avançaient pour la première fois et qui recevaient Christ et qui recevaient un conseil, qui recevaient un Nouveau Testament. Voilà, ça c'était ma vie, ça c'est le Mexique, c'était ma vie. Et Dieu m'a dit non. Tu iras et tu vas moissonner sur ce que eux, ils ont semé. Sur les prières de beaucoup de personnes âgées françaises, parce que j'ai rencontré des vieillards français qui priaient depuis des décennies pour la France, fidèlement, tout simplement, depuis mon arrivée. Des personnes qui ont été fidèles à s'aimer, fidèles à pleurer, fidèles à intercéder devant Dieu et intercéder à faveur du peuple français. Et il m'a dit très clairement, tu iras, mais tu vas verser tes propres larmes. Je te demande seulement, ne baisse pas les bras et continue à s'aimer. Il y aura des larmes qui viendront, qui viennent avec le terrain. Il y a des larmes qui viendront par des erreurs que tu aurais commises, par des manques de sagesse. Hein, personne n'est à l'abri de tout ça. Mais continue à s'aimer. Il y a des larmes, des tragédies qui vont venir, loin de moi d'imaginer que mes parents allaient mourir 4 ans et 5 ans, 6 ans après mon arrivée en France. Des larmes ont coulé. Et quand mon père est décédé, l'église elle était naissante, hein, il est décédé en 85, on était une vingtaine de personnes. J'ai dû téléphoner à 2-3 pasteurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir prêcher les dimanches au moins, ou envoyez-moi quelqu'un qui vient prêcher. Parce qu'il fallait que j'aille donc auprès de ma famille. Et ensuite, on est revenu, et les gens disaient, mais vous n'êtes pas arrêté pour faire le deuil? Oui, on fait le deuil, et on continue à faire le deuil, et c'est nostalgique, mais le travail ne s'arrête pas. Les âmes continuent à avoir besoin d'entendre parler de Jésus. Et 2 ans après, ma mère est décédée, et c'était la même chose. Quand tu pleures, continue à semer. Continue à s'aimer. Je ne demande pas la pitié. Je dis simplement, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec allégresse. Et si Jésus ne revenait pas avant la fin de ma vie, j'espère que ça sera vers 110 ans, pourquoi pas, mon grand-père a prêché la dernière fois un mois avant de mourir, à 104 ans. Donc, il était en Alaska, donc il était bien préservé par la glace là-bas. Mais alors, il faut que moi, je m'assure qu'après moi, il y aura une moisson. Le dernier message que j'ai prêché, c'était sur le roi Ozias. Il y avait quelque chose de particulier dans la vie de Zacharie, qui a exercé un ministère pendant 2 ans. Et pendant le temps de Zacharie, j'ai cherché l'Éternel. Et je disais ce matin-là, qu'est-ce qui va être écrit sur votre tombeau? Quel va être l'épitaphe sur votre tombeau? Pendant qu'on connaissait cette personne, qu'est-ce qu'on aimait prier? Qu'est-ce qu'on aimait chercher la face de Dieu? Il faut qu'il y ait une moisson après nous. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, c'est quelqu'un, Thierry s'il te plaît, Thierry, s'il te plaît. Tout ce que nous faisons doit avoir une portée éternel. Y aura-t-il une moisson après nous? Y aura-t-il des hommes et des femmes qui vont enfin comprendre et se rappeler, ah oui, il y a 40 ans, il y avait donc à la rue 30 des Vinaigriers, des personnes qui chantaient. Vous savez, quand on a fermé l'église pendant 5 mois, il y a 4 ans, les gens nous disaient, mais qu'est-ce que ça nous manquait de voir tout le monde qui sort en souriant, en s'embrassant, voilà, tout le monde souriant tous les dimanches matins, ça nous manquait, on pensait que vous n'allez pas revenir. Les voisins, hein, qui ne viennent pas forcément donc au culte, mais qui nous observent. Mais en tant que moissonneur, Galates chapitre 6, pour moissonner, il faut s'aimer. Et Galates 6 nous dit, ne vous y trompez pas. Verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Sémons pour l'esprit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais Seigneur, je n'ai pas vu la moisson. Mais tu as été fidèle, c'est tout. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Sémons pour l'esprit. En tant que moissonneur, vous savez, la moisson, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. On a parlé hier de Reinhard Bonnke. 79 millions de personnes qui ont répondu oui à l'appel, qui ont dit oui, je veux recevoir Christ dans mon cœur, comme il est dit dans la parole de Dieu. Oui, je veux devenir enfant de Dieu. Toujours est-il, des millions sur des millions de personnes l'ont entendu, l'ont écouté. Et quel sera le fruit éternel? Seul Dieu le sait. Nous ne sommes pas de Reinhard Bonnke, peut-être, ni de Billy Graham. Mais soyons fidèles à notre poste. Et semons, semons. Aussi, maître de la moisson, c'est le roi qui a des ambassadeurs. De Corinthiens, chapitre 5. Il a des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont envoyés par le roi pour justement accomplir les désirs du roi, accomplir la volonté du roi, accomplir les ordres du roi. Et nous sommes ces ambassadeurs. Et hier soir, quelqu'un avait posé la question à Reinhard Bonnke, il le disait sur une vidéo. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai pu faire? Car l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Et au verset 14, nous voyons l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un appel particulier pour avoir un ministère de réconciliation. On a tous un ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça c'est le message qui doit retentir, qui doit être entendu quand nous ouvrons la bouche. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez, tout ce que nous sommes, tout ce que nous produisons est pour lui, est en lui, pour que nous soyons dans l'abondance pour toute bonne œuvre. Des fois, on a une vision particulière, on se dit, Seigneur, mais je n'ai pas les moyens d'accomplir la vision. Je n'ai pas les moyens. Et donc, en tant qu'ambassadeur, on a besoin des moyens pour accomplir ses œuvres. Et c'est pour ça qu'il est dit en 2 Corinthiens chapitre 9 que Dieu veut nous bénir afin qu'on ait de quoi manger, de quoi s'habiller, mais aussi afin qu'on ait encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et donc quelque part, quand on parle de moisson, aussi on va parler de ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, de ce que nous donnons pour que Dieu puisse nous rendre capables de pouvoir accomplir les œuvres qu'il nous a confiées. Quand on était au Mexique, on ne pouvait pas travailler au Mexique en tant que missionnaire. Donc il y avait des amis, des membres de la famille aux États-Unis qui nous soutenaient financièrement. Et alors, bon, moi je n'avais pas acheté des bâtiments, c'était mon père qui avait ce fardeau-là. Moi, j'étais très actif. Hein. Donc, 6 jours par semaine, je partais à 6h du matin, je revenais à 1h du matin. Donc, le lendemain, parce qu'il fallait prendre, voilà, je n'avais pas la voiture au départ. Tu peux laisser ouvert, oui, merci. Et donc, quand on a commencé à parler de la France, ah, mais la France, c'est une terre de vacances. Mais les Français n'ont pas besoin de Dieu, ils ont tout. Paris, c'est la ville romantique du monde. En France, vous allez pour passer des vacances éternelles ou quoi? et on a perdu plus de la moitié de notre soutien financier. Et les gens nous ont dit, nous, on ne croit pas à la France. Ça ne nous intéresse pas. Le Mexique, oui, c'est le réveil des milliers de gens qui se convertissent. Aujourd'hui, il y a 25 millions de chrétiens au Mexique. C'est extraordinaire. Hein? C'est, vous savez, pour une église qui dit, voilà, nous, on est engagé avec des missionnaires où il y a des millions de personnes qui sont converties dans les 30 dernières années. Mais les gens vont être encouragés à se dire, mais on va s'investir là-dedans. Nous, quand on est arrivé ici à Paris, la première année, on était 10. Et on sortait pour évangéliser, Brian Benet avec sa guitare, moi avec Suzanne, avec Alfredo, et on allait dans les différents endroits, on sortait tous les 15 jours, donc presque toutes les semaines, parfois tous les 15 jours, mais il n'y avait pas beaucoup de fruits, hein. Pas beaucoup de fruits. Et alors les gens voulaient que, et alors tu as une église 500 au moins? Non. Mais je suis dans la volonté de Dieu. Je suis au 30 des vinaigriers, et c'est là où Dieu nous a placés, et on fait tout ce qu'on fait, et on a une réunion de prière le mardi soir, une réunion d'études bibliques le vendredi, 3 réunions le dimanche, en français à 10h, en espagnol à 15h, en français à 17h. Mais alors, mais l'onction des dieux, mais tu dois avoir une église de 100, de 200, 3 mois. Mais non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui met l'appel. Et c'est Dieu qui donne aussi la patience d'attendre le moment de la récolte. Et pour nos 5 ans d'anniversaire, non, nos 10 ans d'anniversaire, on a imprimé 5000 invitations. On était vraiment, vraiment, voilà. Et on a donné les 5000 invitations partout, dans le 10e, dans les gares, etc. Personne est venu à nos 3 jours de convention d'anniversaire. Personne à part les 20 qu'on était. Et alors, on est parti du Mexique. On disait, Seigneur, voilà, tu nous envoies en France. Bon, je sais qu'arriver en France, il faut qu'on soit étudiant, etc. J'avais vu donc les lois, etc. Donc je savais que je ne pouvais pas avoir un travail ni rien. Donc, je suis venu ici le 21 juin, donc 81. Je suis passé un mois. Tout seul, je voulais voir un petit peu la ville. Là, j'ai rencontré un pasteur qui nous a accueillis pour venir dans son église et assister, chose qu'on a fait pendant un an et demi. Mais à la fin de ce mois, je retourne aux États-Unis pour récupérer Denise et Brian. On a fait 60 églises, depuis la Floride jusqu'à New York, jusqu'au Montana, jusqu'à Seattle, jusqu'à Nebraska, jusqu'à la Californie. On a fait 60 églises. Les 60 églises, c'est des personnes qu'on connaissait, des personnes voilà, qui nous connaissaient au Mexique. Mais la France, vous savez, mais il faut que tu nous montres des preuves hein, pour pouvoir croire que tout d'un coup, voilà. 60 églises, vous savez combien d'églises se sont engagées à nous soutenir financièrement? 2. Alors Seigneur, bon, tu nous envoies. Tu es celui qui pourvoit, merci. Tu es celui qui pourvoit. Tu es fidèle. Voilà, on nous avait donné des offrandes, donc ça nous aidait à payer l'essence. Hein. C'était un grand parcours. Hein. C'était un grand parcours. Donc pendant un mois et demi, 2 mois, on a fait ce parcours. Et on doit partir pour venir ici, en France, le 8 septembre 81. Et mon père me dit, alors, tu as un soutien financier pour tous les mois? Non. Mais Dieu nous envoie. On va. Et on arrive. Et on arrive et quand on arrive à l'aéroport, le pasteur qu'on avait rencontré, il nous avait dit, mais tu nous appelles et on viendra te chercher. On a téléphoné pendant 5 heures, de 5h30 jusqu'à 10h30. Sa petite fille de 3 ans avait décroché le téléphone. Eux, ils pensaient que peut-être notre avion n'était pas arrivé ou quelque chose. Et je sors à Charles de Gaulle. Je dis, Seigneur, on a 13 pièces de bagages. Qui c'est qui va nous prendre? Etc. Et je sors, il y avait donc un Ford, donc une espèce de wagonnette Ford, LTD, qui était très très connue aux États-Unis, au Mexique. Je vais voir le taxi, il nous prend les 13 morceaux de bagages, il nous amène à Palizzo, il nous applique 100 francs pour le faire. Je n'ai jamais vu une wagonnette de cette taille depuis 38 ans. Moi, je crois que c'était un ange, parce qu'on était fatigués. On avait pris une ligne donc d'avion, il fallait qu'on amène notre propre nourriture, etc. C'était vraiment donc le plus bon marché possible. Et on arrive et voilà, le Seigneur avait pourvu pour qu'on puisse payer les 6 premiers mois donc des loyers d'un studio qu'on avait. Et alors, un mois après mon arrivée, mon père me dit, tu sais, les églises en Mexique, elles ne sont pas riches, mais on va vous soutenir pendant un temps, pendant le temps que, voilà, que Dieu le permet. Et donc, ils nous ont envoyé $600 par mois. Ça nous aidait. Un missionnaire m'avait dit, mais si tu veux venir en France, il faut que tu aies au moins 4 000 dollars par mois, hein, parce qu'il faut payer un bâtiment, il faut avoir une voiture, l'assurance, ceci, cela. Et donc, pendant 3 mois, on était tranquille. Dévaluation du peso au Mexique. Les $600 sont devenus 50 francs. 10 dollars. Et j'ai dit à mon père, tu sais l'argent que tu nous as envoyé à cause de la dévaluation? Il m'a dit, ah bon, on va garder les $600, toi tu fais confiance à Dieu. Parce que de toute façon, ça ne vaut pas la peine qu'on te l'envoie et qu'on perde l'argent. Voilà, tu fais confiance à Dieu. Et voilà, on a fait confiance au Seigneur. Mais le Seigneur n'a jamais manqué à pourvoir pour qu'on puisse accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a choisis. De Corinthiens 9, rapidement, vous savez, c'est un chapitre qui parle de la libéralité que l'apôtre Paul suscitait pour aider donc les Macédoniens, pour aider les personnes qui étaient en difficulté, pour aider les églises qui étaient en difficulté. Et il disait, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu pourvoit. Il y a plein de témoignages que je ne vais pas donner ce matin, mais Dieu pourvoit. Quand nous vivons dans sa vision, nous aurons sa provision. Car encore tout est à lui. C'est pour lui, c'est en lui que nous sommes. Et nous sommes appelés pour accomplir sa volonté. Et notre travail, et notre argent, et nos familles, nos 7 flèches, et nos 14 mini-flèches, on les a consacrées à Dieu. Pour que Dieu les utilise, pour que Dieu utilise nos familles, notre famille. Les uns sont ici, les autres sont aux États-Unis. Michael prépare donc un concours pour aller travailler dans une ambassade quelque part au Moyen-Orient. Donc le Seigneur va se servir de chacun de nos enfants. On lui a consacré nos enfants. Tout ce que nous avons, tout lui appartient parce qu'il est le maître de la moisson. Dieu désire qu'on ait sa perspective. Quelle est sa perspective en Timothée chapitre 6? La perspective de Dieu, c'est qu'on vive dans le contentement. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 17 du même chapitre recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Et en 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à verset 12, il dit, soyez tous animés d'une même pensée, d'un même amour, et devenez une source de bénédiction. Bénissez autour de vous, car c'est à cela que vous avez été appelés. Bénissons, soyons une source de bénédiction. Avec ce que Dieu met entre nos mains, cette moisson aussi financière qui nous aide à accomplir sa volonté. Alors, le maître de la moisson nous dit prier. Pourquoi prions-nous pour la moisson? Premièrement, la moisson est maintenant, pas pour demain. Allez dans les hôpitaux. Allez dans les services de soins palliatifs. Et là, vous verrez, la moisson est là. Quand ça m'est arrivé d'aller dans les soins palliatifs, et je vais voir la personne que j'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle, Ça m'est arrivé à maintes reprises. Je passais devant des portes qui étaient ouvertes. Et vous voyez les personnes qui sont en fin de vie, vous savez, ils sont en train de parfois agoniser, parfois ils font des grands essoufflements. Il n'y avait personne qui était là. Il n'y avait personne pour mettre un petit peu d'humidité sur leurs lèvres qui sont desséchées, etc. Et chaque fois, je me rappelle une fois, on est allé voir Mme Rossi, qui était une dame belge qui nous a accompagnés pendant 5 ans, jusqu'à sa mort, à 93 ans, René Rossi. Je suis allé donc à Corbeil-Essonne, dans un grand hôpital. C'était un mouroir. Il y avait des dizaines de portes sombres. Il n'y avait pas de musique, pas de fleurs, rien. Et chaque fois que je voyais Mme Rossi, je voyais qu'ils avaient fermé une porte. Ils me disaient, ah non, mais la personne est décédée. La personne est décédée. La moisson était là. Les soins palliatifs sont pleins de personnes qui sont en train de mourir. Ils sont en train de se poser des questions. La moisson est maintenant. C'est pour ça qu'on prie pour la moisson. Jérémie chapitre 8 et verset 18. Jérémie chapitre 8 et verset 18. C'est là où Jérémie, il exprime la douleur qu'il ressent. Verset 18, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'a-t-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? Dieu, il fallait que Dieu punisse ce qu'il avait provoqué, ce qu'il avait donc irrité. Le verset 20, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, de l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie, c'était une plainte qu'il présentait devant Dieu. Il pleurait devant Dieu parce que, comme il est dit en Jérémie chapitre 20, verset 7, tu m'as persuadé, tu m'as eu, car chaque fois que j'ouvre ma bouche, c'est la moquerie, c'est l'opprobre. Chaque fois que je prêche, chaque fois que je dis ce que tu me dis de dire, il y a des oreilles fermées. Et des fois, je dirai, je ne ferai plus mention de lui en son nom, je serai tranquille. Mais il y a comme un feu dévorant qui brûle au-dedans de moi. Et je ne peux pas résister. Et il faut que je continue à parler. La moisson est passée, l'été est fini. Pour combien de personnes arrivées à la fin de cette journée du 5 janvier 2020, ils vont passer dans leur éternité sans Christ ou avec Christ. C'est pour ça qu'on prie. Pourquoi prie-t-on pour la moisson? Parce que la moisson est prête à être cueillie. Joël, chapitre 1, verset 6. Joël, c'est tout de suite, donc deux livres après Daniel. Joël, chapitre 1, verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se réveille d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Au fond des libations disparaissent la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le moût est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Pourquoi prie-t-on? Parce que la moisson est prête à être cueillie. Vous savez combien de chrétiens y a-t-il sur la face de la terre aujourd'hui? 6,7%. On est 7 milliards 800 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous sommes 6,7% des chrétiens nés de nouveau. Des personnes qui sont ouvertes à l'idée de Jésus. Troisième raison, la moisson doit être constatée avec nos cœurs. Levez les yeux, priez pour que Dieu puisse vous faire regarder avec son cœur. Les champs blanchissent, elles sont prêtes pour la moisson. Dieu cherche des ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Mais il faut que ces ouvriers aient un cœur changé. Ce n'est pas seulement de le constater avec nos yeux, mais il faut le constater avec notre cœur. Car Jésus fut ému de compassion dans son cœur. Car ils étaient comme des brebis sans berger. Vous savez, dans les années 300 et 1500, après Christ, il y a eu un déclin par rapport à la foi. Paul s'était donné dans ces régions. Et il avait dévoilé ce Dieu, que les gens, ils priaient un Dieu, mais ils ne savaient pas quel était ce Dieu. Et quand on voit donc, dans l'histoire et dans le Moyen-Âge, et comment l'évangélisation a complètement donc, pris un déclin. Pourquoi? Parce que l'Église, à l'époque, s'est endormie. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on écoute en Éphésiens chapitre 5, « Réveille-toi, toi qui dors, car Christ t'éclairera. Fais la volonté de Dieu, comprends la volonté de Dieu. Ne te laisse pas distraire par autre chose, comprends la volonté de Dieu et fais-la. » Soit l'endormissement, soit l'apathie. On ne se fait plus de ceci. Dans le psaume 142, il y a ces versets où il y a un constat. Et il dit, et je vais le lire, parce que c'est vraiment un verset percutant. Le psaume 142. Il dit, verset 8, « C'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. » La personne exprime et il dit, je regarde autour de moi. Verset 5 du psaume 142. Je jette les yeux à droite et je regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne pense ceci de mon âme. Le frère Banquet disait aussi par une vidéo hier soir, Dieu a mis sur mon cœur, il fallait que je me fasse ceci pour les âmes. Nul ne pense ceci pour mon âme. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie, qu'on puisse le constater, pas avec nos yeux, mais avec notre cœur. Et la quatrième raison, pourquoi doit-on prier pour la moisson? Parce qu'il faut que les ouvriers soient envoyés. On a du mal à comprendre le verbe « aller ». Ésaïe chapitre 6, verset 8, « Qui enverrai-je? Qui ira à ma place ?» Ésaïe, une fois qu'il avait été purifié dans la présence de Dieu, sanctifié, il a dit « Me voici, envoie-moi ». Romains chapitre 10, verset 13, « Celui qui croit au nom de Jésus sera sauvé. Mais comment croiront-ils ? » Pardon, celui qui croira, qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment croiront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche ? C'est pour ça, comment vont-ils entendre s'il n'y a pas des envoyés ? Jean chapitre 15, Jean chapitre 17 nous dit, nous sommes des envoyés de Dieu pour la moisson. 4% des ressources des églises aujourd'hui chrétiennes évangéliques dans le monde sont dédiées à toucher 1 milliard 200 millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. En soutenant 8000 missionnaires indigènes ou missionnaires de différents pays qui les envoient. Mais 96% des ressources aujourd'hui sont utilisées pour maintenir les brebis qui sont déjà dans la bergerie. Vous avez bien entendu? 96% des ressources, des dîmes, des offrandes, des dons, sont utilisées pour maintenir les brebis qui sont déjà dans la bergerie. Seigneur, nous voulons être visionnaires, nous voulons être missionnaires. Que faisons-nous pour atteindre les 1 milliard 200 millions? Il y a quelques années, on m'a invité à venir aux États-Unis à une convention missionnaire. Et j'allais parler de la France. Quand j'arrive, ils avaient payé mon billet, ils avaient payé mon hôtel. J'arrive et me disent, ah non, mais on va seulement nous intéresser à la fenêtre 1040. Vous savez, la fenêtre 1040, c'est les pays, Maroc, et donc tous les pays donc, au nord de l'Afrique. Et les pays qui vont jusqu'en Iran, jusqu'en Irak, etc., c'est la fenêtre 1040. Et ils m'ont dit, voilà, tu ne pourras pas prendre la parole après tout, voilà, tu assisteras à la convention, mais nous, on est intéressés à la fenêtre 1040. C'était intéressant, j'avais pris une semaine, j'étais parti pour ça. Et 2 ans après, l'idée est sortie, la fenêtre 1070. Vous avez entendu la fenêtre 1070? La fenêtre 1070, c'est tous les pays dans lesquels il y a des musulmans, jusqu'en Europe. Donc là, enfin, on faisait partie de l'endroit où on pourrait s'intéresser. Bon, je ne suis pas revenu à cette convention, mais c'était intéressant que de la 1040, on est passé à la 1070. Et là, les gens ont commencé à prier par rapport à l'islamisation qui est en train de se faire dans le monde. Soyons visionnaires, soyons missionnaires. Et allons-nous nous engager à prier pour la moisson. Père, nous venons devant toi ce matin. Cette année 2020, Seigneur, une année que tu mets devant nous, 365 jours, 24 heures dans chaque jour, 60 minutes dans chaque heure, 60 secondes dans chaque minute. Seigneur, allons-nous nous engager à passer du temps à prier pour la moisson, à nous engager pour la moisson. Quant à nous, en tant qu'Église, nos chants actuels, c'est ici, c'est Dieppe, c'est l'Église chinoise. C'est différents pasteurs, différentes églises qu'on connaît, qui cherchent un encouragement. Seigneur, nous voulons, Seigneur, tout faire pour la moisson. Tu nous appelles à être des moissonneurs, des ambassadeurs. Touche nos cœurs, Seigneur. Fais-nous comprendre qu'est-ce que c'est de pleurer en sémant ta parole. Qu'est-ce que c'est, Seigneur, d'avoir ce fardeau si lourd dans notre cœur pour les âmes qui périssent sans toi. Nous sommes une église missionnaire depuis l'ouverture il y a 35 ans. Et nous continuons à être une église missionnaire. Et nous voulons être une église visionnaire. Et nous voulons, Seigneur, comprendre ta vision. Et nous voulons, dans ces temps de jeûne et prière, que tu nous parles, que tu nous donnes des directives précises. Nous allons prier, Seigneur, que tu pourvoies un couple, Seigneur, pour Dieppe. Seigneur, vraiment un couple pastoral qui puisse vraiment, Seigneur, voir cette église se développer et grandir. Seigneur, nous allons prier, Seigneur, pour que tu continues à bénir l'église chinoise et continues à susciter des prédicateurs, donc, dans le groupe. Seigneur, que tu pourvoies des pasteurs pour eux aussi. Monsieur, nous allons aussi, Seigneur, prier pour que tu nous donnes des directives. Qu'est-ce que tu veux de nous, Seigneur, en tant qu'Église locale? Car il est temps, Seigneur, de défricher le champ par nos larmes. Il est temps, Seigneur, de prendre, Seigneur, oh Dieu, les outils et de défricher. Parce qu'il faut qu'on prépare la terre pour qu'on puisse s'aimer. Parce qu'il y aura une moisson. Il y aura une moisson à récolter. Et nous voulons, Seigneur, en toutes choses, t'honorer et te glorifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Touche nos cœurs, touche nos cœurs. Ne nous laisse pas insensibles et que chaque instant de notre vie soit consacré à la moisson. Au nom de Jésus, amen.